Interview BO par Benoît Bazirico.
Je suis avec Frédéric Alvarez, le compositeur du film d'Alva, présenté à la Semaine de la Critique, et sa réalisatrice, Emmanuelle Nico. Premier film, je crois. Quel moment la question musicale et la rencontre avec Frédéric est intervenue dans le projet?
J'ai été étonnée moi-même par mon envie de mettre de la musique pour la toute première fois dans un de mes films, parce qu'en fait, dans mes courts-métrages, je n'avais jamais mis de musique extra-diégétique. Et c'est ma monteuse qui a eu l'idée de mettre de la musique. On a commencé à chercher des musiques sur lesquelles on pouvait mettre sur notre maquette. Et on est tombé sur la musique de Frédéric, la BO de la Troisième Guerre. Et on a commencé à mettre des morceaux de la Troisième Guerre sur notre film.
Au montage.
Pendant le montage, en cours de montage. Et là, en fait, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de rencontrer ce compositeur, parce que j'adore sa musique. Enfin, j'adorais cette BO dans laquelle il y a quelque chose qui respire. C'est là que j'ai eu envie de rencontrer Fred pour qu'on entame une collaboration. Et ça s'est fait très très en amont du film. Je crois qu'on travaillait depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais 6 semaines sur le montage, et Fred a commencé à intervenir à ce moment-là.
Alors par rapport au rôle que la musique joue dans ce film, nous sommes pendant tout le film auprès de cette jeune fille de 12 ans, d'Alva. Au début, on ne sait pas pourquoi elle est retirée de son domicile. On apprend progressivement qu'elle a été violentée par son père, on le sait très vite. Hein. Et est-ce que la musique était censée relater son intériorité, son traumatisme ?
Ce qu'on a essayé de construire, c'est un motif qui peu à peu va se construire au fur et à mesure du film, alors que à la toute base, ce motif n'est pas spécialement existant, c'est très déconstruit dans la tête de Dalva, puisqu'en plus c'est une jeune fille dont toutes les valeurs sont complètement inversées. Enfin, elle prend son bourreau pour l'homme de sa vie, elle prend la police, les éducateurs pour des bourreaux justement, alors qu'ils sont ses sauveurs. Et donc il y a quelque chose qui est très déconstruit dans sa tête, et en fait au fur et à mesure tout se reconstruit. Et donc oui, c'est une musique qui relate pas mal l'intériorité pour moi du personnage.
Et donc Frédéric, c'est le personnage qui a vraiment guidé votre partition ?
La musique, elle a quelque chose, oui, c'est lors de la pulsion de vie. Je trouve que c'est ça qui ressort beaucoup, et de la résilience. Et en fait, ça se traduit dans notre BO par une note de clavier d'un Wurlitzer qui suit un peu comme un cœur qui bat, ou comme un pouls, un peu tous les morceaux du film, comme une sorte de pulsion de vie, d'aller vers l'avant, malgré la souffrance ou malgré le chamboulement et l'emprise. Et effectivement, et c'est complété aussi par un synthé qui est très qui donne le souffle, en fait. Donc il y a à la fois le cœur qui bat et en même temps le souffle à travers le synthé qu'on retrouve tout au long de la BO. Et la BO s'épaissit au travers que la résilience se fait. J'ai utilisé des samples de sons de verre et qui viennent apporter cette fragilité dans l'arrangement, en fait, et qui sont aussi présents tout au long du film.
Et le fait d'accueillir de la musique dans un film qui pourrait être très réaliste, à la Dardenne, qui se priverait complètement de musique, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour à un moment donné accueillir cette musique qui justement va avoir ce chemin complémentaire et qui va se déployer avec l'émancipation du personnage?
Moi, j'ai envie d'être émue, j'ai envie de pleurer en allant au cinéma, et j'avais envie plus que tout de faire un film émouvant. Et je pense que j'ai compris aussi, en voyant mon film tout nu et après en voyant mon film avec des petits morceaux donc de la Troisième Guerre, qu'en fait mon émotion n'était pas du tout la même, et que ça me transportait beaucoup plus d'avoir de la musique par-dessus. Qu'on soit encore plus transporté, encore plus ému. En mettant de la musique, on a le plus cette perception du temps qui passe, d'un long temps qui passe aussi.
Et Frédéric Alvarez, je rappelle qu'on vous a apprécié chez Hubert Viel, notamment Louloute récemment, et ou Les Filles du Moyen-Âge. Il y a eu aussi donc La Troisième Guerre, on l'a cité. L'émotion, j'ai l'impression qu'elle a jamais été aussi directe que dans ce film-là. Quel est votre rapport à l'émotion justement ?
Je trouve que j'ai trouvé le film tellement émouvant, même à ses premiers stades du montage, qu'en fait il y a eu vraiment une évidence dans la composition. Et cette évidence, on l'a trouvée en fait avec. Étant donné qu'on avait déjà la recette très rapidement des instruments utilisés, parce qu'ils fonctionnaient et qu'on les aimait tous les deux, cette émotion, c'est vraiment de l'instinct et de l'inspiration très spontanée, quoi. Et ensuite, le travail, il est allé dans le détail avec Manu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé beaucoup ensemble, ce qui est très rare. Moi, j'avais jamais autant travaillé avec quelqu'un proche de moi de tous les films que j'ai fait. On trouvait le bon chemin à emprunter. Et très rapidement, en fait, on devait se voir. Et elle venait travailler avec moi dans mon studio pendant 2 jours, 3 jours, plusieurs fois. Et on travaillait avec une matière déjà consistante, en fait, avec déjà des choses qui étaient presque abouties, en réalité. Mais en faisant du détail, du plan. C'était un travail vraiment d'orfèvrerie. J'ai vraiment trouvé que c'est un travail d'orfèvrerie, c'est-à-dire chaque note qui est placée à tel endroit, ça a été décidé ensemble sur le film, et à tel point que je pense Manu est presque co-compositrice sur ce film.
On entend le rap d'une camarade d'Alva qui donc écoute ce rap-là. En revanche, on ne connaît pas du tout les goûts musicaux de d'Alva. Est-ce que c'était une idée qu'elle n'ait pas sa musique dans le film, que sa musique soit justement cette musique originale intérieure ?
Oui, tout à fait. Il y a clairement, en fait, d'Alva, on va le comprendre aussi au fur et à mesure que c'est quelqu'un qui a pensé pendant des années avoir une identité qui lui était propre, alors qu'en fait c'est une identité que son père a créée intégralement pour elle. On s'en rend compte quand on comprend qu'elle ne sait pas quoi choisir comme vêtement, parce que son père a toujours décidé pour elle, qu'elle n'a pas de couleur préférée, qu'elle n'a pas de tenue préférée, et que c'est l'histoire de cet enfant en effet qui à la base est complètement objet et qui va devenir sujet. Et ça, c'est sûr qu'au niveau musique, oui, elle n'a pas, en effet, elle n'a pas de goûts musicaux. Et ces fameux goûts musicaux, c'est quelque chose, je pense, qui est très aussi propre à l'adolescence. C'est comme ça aussi qu'on se construit. Samia, c'est une adolescente, en puissance, qui sait exactement ce qu'elle aime, sait décorer sa chambre, écoute de la musique très particulière. Et à contrario, d'Alva, elle est totalement vierge par rapport à ces questions-là. Et elle va découvrir, grâce à Samia, ce que c'est que l'adolescence.
Et on est particulièrement fiers, je crois, avec Manu. J'avais jamais fait un morphing entre une musique intradiégétique et une musique extradiégétique. Et donc, je crois que Manu, c'est ton morceau préféré dans la BO, qui est une scène d'une scène de boom au sein du foyer dans laquelle est d'Alva, où en fait, elle s'enlace avec un autre adolescent. Et il y a un rap très, très brutal de filles qui rap américaine. Et la musique, le thème de d'Alva, enfin sa signature de la BO, vient se morpher au mixage son et la musique de rap disparaît et revient brutalement à la fin dans une sorte de retour à la réalité brutale. Voilà.
Oui, puis c'est assez fort le point de vue apporté sur le personnage qui est finalement dans son mensonge. Et la musique est ambiguë parce que la musique peut à la fois entretenir son mensonge et en même temps la réveiller quelque part de son mensonge. C'est vraiment la question du déni.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que d'Alva, pendant toute la deuxième partie du film, est dans cette ambivalence-là.
C'est une musique qui aussi, par ses motifs un peu rythmiques, pour parler un peu de rentrer dans les détails, en fait, au début, quand le film commence et qu'elle est complètement encore sous emprise de son père, quand elle est placée au foyer, quand je parlais de cette note de clavier qui est répétée, là, du Wurlitzer, en fait, cette note est juste répétée un peu comme une goutte d'eau, on disait comme un battement, une pulsation. Et au fur et à mesure que le film passe, cette pulsation, en fait, devient aussi se met à faire des arpèges d'accords. Et en fait, c'est toute sa personnalité, je pense, un peu, qui était floutée, qui avait été effacée, qui commence à s'exprimer. Et donc, c'est comme je parlais, que la musique prend plus d'ampleur, c'est aussi à travers ces motifs rythmiques.
Thank you.
d'Alva, elle est persuadée qu'elle est une femme, alors que le film, dans tout le film, elle va réapprendre à être une enfant. Et quelque part, oui, aussi la musique, c'est un peu, elle a un côté doux et enfantin, mais en gardant une fragilité. Moi, je trouve que cette fragilité, elle est vraiment interprétée par les sons de verre, qui sont des sonorités très fragiles, très un peu irrégulières, parfois même un petit peu fausses. Parfois, Manu était obligé de me corriger parce qu'elle était heurtée par certains sons de verre qui sonnaient faux sur certaines notes. Mais voilà, donc la musique a ce côté aussi enfantin depuis le départ, et c'est un peu l'intérieur, un peu l'âme de Dalva.
Il y a quelque chose que je trouve que souligne la musique, c'est la détermination de Dalva, souvent avec ses notes répétées dans la scène de la prison, de l'entêtement, voilà. La note de la prison, enfin cette note dans la scène de la prison, ces notes aussi qu'on retrouve quand elle retourne chez elle, où c'est une note répétée, c'est toujours la même.
Comme si la musique en fait était là pour lui donner de la motivation.
Les notes répétées sont là pour tout simplement aussi entraîner la scène, pour donner du dynamisme aussi parfois des mouvements de caméra où elle marche dans la prison effectivement quand elle va revoir son père pour la première fois. Et, oui.
Et puis ça prend tout son sens évidemment, sans divulgâcher, ça prend tout son sens évidemment quand il y a le procès, parce que là voilà, il y a le courage aussi de se confronter à son déni qui s'efface progressivement.
Oui, et d'ailleurs qui s'efface comme la plupart des instruments sur une scène, la scène clé du tribunal. Et ça, c'était aussi pareil, un travail qu'on a fait ensemble en direct avec Manu devant ma session sur Cubase, de savoir comment doser cette scène du tribunal qui aurait pu vite tourner avec quelque chose de cliché ou de mauvais goût, parce qu'en fait la tension est tellement maximale, c'est la dernière scène du film, c'est le procès du père, et en fait on a réussi, je pense, à supprimer ce qui était en trop.
C'était une bonne idée d'opter pour une musique extrêmement épurée à ce moment-là de la scène. Et je trouve qu'on a trouvé un très bon dosage, Fred et moi, sur l'ensemble aussi de la BO. Pas trop chargé ces moments justement émouvants et qui permettent juste qu'on s'envole un petit peu plus grâce à la musique.
Eh bien merci Emmanuel Nico, Frédéric Alvarez pour Dalva, présenté à la Semaine de la Critique. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.